Ok. Yofi, Erev Tov, les Koulam. Et donc, on est parti pour notre étude hebdomadaire sur les grands personnages qui ont modelé notre siècle et notre Géoula. Et donc, aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, puisque aujourd'hui, c'est la fête des Tunisiens. On est juste après la paracha d'Yitro, Seouda d'Yitro, donc on s'est dit, on n'a pas le choix, il faut bien qu'on parle d'un Tunisien. Et quand on parle de Tunisien, eh bien évidemment, alors on a fait déjà le Rav Getz, mais celui qui était le Rav de son Rav, celui qui en fait lui a inculqué les valeurs qui ont fait de lui d'être le Rav Getz, eh bien c'était Rabbi Moshe HaKohen. Et je dis Rabbi Moshe HaKohen et non pas Rabbi Moshe Chalfon HaKohen. Pour une raison très simple, et on va commencer tout de suite par les deux choses contre lesquelles il s'est battu toute sa vie et qu'il n'a pas réussi à emporter le combat.
Alors, c'est pas pour t'interrompre, mais un ami très proche qui est en train d'éditer les livres du Rav m'a dit, Eli, tu n'écris pas Rabbi Moshe Chalfon HaKohen, mais tu écris Rabbi Chalfon Moshe HaKohen. C'est comme ça que le Rav écrit.
C'est justement pas comme ça que le Rav écrit. Sans vouloir. Alors, peut-être que tu as raison que quand on parle de Rabbi Chalfon Moshe HaKohen, on met d'abord Chalfon et ensuite Moshe. Ça y est, Choliot. Je débat pas là-dessus. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faudrait pas mettre du tout Chalfon.
D'ailleurs, attends, si je ne me trompe pas, il a mis Alpha entre parenthèses, mais je te laisse continuer.
Donc tu vérifieras, parce que par exemple, lorsqu'il écrit son livre, il a écrit plein de livres, on va y revenir là-dessus, mais en spoiler, quand il écrit par exemple Brit Keuna, qui est l'un des livres les plus essentiels de son travail, de son œuvre, eh bien il signe Rabbi Moshe HaKohen. Il ne signe pas Rabbi Chalfon HaKohen. À tel point, les amis, à tel point que lorsque les nazis vont arriver en Tunisie, alors on va y revenir sur les nazis en Tunisie, Rabbi Moshe, par rapport à cette histoire-là, mais lorsqu'ils vont arriver, il va y avoir l'armée coalisée qui va aussi arriver en Tunisie, et dans l'armée coalisée, avec les Américains, les Anglais, ce que tu veux, il y a des aumôniers. Comme dans toutes les armées qui sont en marche, il y a des pasteurs, des prêtres, et il y a aussi des rabbins. Et l'aumônier en chef des Juifs s'appelle le Rav Rabinovitch. Il est le Rav de la 8e compagnie. Cette fameuse compagnie qui va arriver en Afrique du Nord. Et le Rav Rabinovitch, lorsqu'il arrive à Djerba, eh bien, il veut rencontrer, évidemment, le grand rabbin de Djerba. Il ne sait pas vraiment qui c'est, mais il se dit, je suis déjà là, c'est une ville de Talmidei Chachamim, j'ai envie de rencontrer le rabbin. Et il rentre dans la synagogue, la grande synagogue, et là-bas, il trouve le livre qui s'appelle Brit Keuna. On lui dit que c'est le grand rabbin qui a écrit le livre. Il commence à le lire, il est émerveillé par ce qu'il est en train de lire, et donc il demande à rencontrer l'auteur du livre. Il y a marqué dans le livre, Rabbi Moshe HaKohen. Et les gens, là-bas de Djerba, lui disent, très bien, on va t'amener chez Rabbi Chalfon. Il dit, mais je ne veux pas voir Rabbi Chalfon, je veux voir Rabbi Moshe HaKohen. Et les gens l'amènent quand même chez Rabbi Chalfon. Alors, il arrive chez Rabbi Chalfon Moshe ou Moshe Chalfon HaKohen et il lui dit, Slicha, Bimchila, le Rabbi Chalfon, aval, moi je voulais voir Rabbi Moshe. Il lui dit, mais c'est moi. Il dit, ah, c'est le même. Oui, c'est le même. Il dit, mais alors, je n'ai pas compris, c'est quoi le bug? C'est quoi l'histoire? Et Rabbi Chalfon Moshe, comme tu veux, HaKohen, eh bien, va lui expliquer qu'il essaye de se battre contre ça toute sa vie, mais ça n'a pas marché. Il a demandé toujours qu'on ne l'appelle pas Chalfon. Il rejetait ce nom qu'il avait reçu. Il dit, il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas se battre. J'ai reçu le nom que j'ai reçu à la naissance, mais Zelonachon, Zelotov. C'est pour ça que dans ses livres, il ne signait pas Chalfon. Pourquoi? Eh bien, il disait parce que dans tout le bassin de l'Afrique du Nord, tous les gens qui s'appellent Chalfon, Mahlouf, c'est à cause de Emunot Felot. c'est lorsque il y avait un enfant qui naissait et qu'il y en avait un autre qui avait été mort-né ou qui était mort juste après la naissance également, eh bien, on donnait le nom à celui qui avait survécu, on lui rajoutait Mahlouf, Khalfon, Mahlif, pour dire au Shedim, pour dire au Kohot Atouma, voilà, vous en avez eu un, vous n'aurez pas l'autre. Celui-là, il remplace l'autre. C'est l'autre. Et Rabbi Moshe Cohen, il disait, Aval Zeshtuyot, Bemitzak Vanyot. C'est absurde de continuer à penser cela. Quoi? Ceux qui dirigent le monde, ce sont les Shedim ou Zakadosh Borou? Et Khutzmizé, les Shedim, tels qu'ils sont marqués dans le Talmud, eh bien, ce n'est plus du tout la même chose aujourd'hui. Il y a des Mazikim dans le Talmud, nous disait Rabbi Moshe Cohen. Mais ce ne sont pas les Mazikim dont on parle aujourd'hui. Les Mazikim, aujourd'hui, ils ont deux pattes, ils ont deux mains, ils prennent en général une arme à la main. Eux, ce sont des Mazikim. Donc, il faut arrêter de croire en cela. C'est absurde. Mais Malahasot, il s'est battu toute sa vie. Il n'aimait pas qu'on l'appelle Khalfon. Il refusait qu'on l'appelle Khalfon. Il n'a pas signé ses livres en mode Khalfon. Ou Becholzot, si je t'avais dit qu'on fait le cours sur Rabbi Moshe HaKohen, tu n'aurais pas su de qui on parle. Hâte que d'écart, que lorsque, en 2005, et on va y revenir également, on a ramené ces ossements en Eretz Israël, eh bien, dans les espédim qui ont été donnés, il y en a qui ont fait des gematriotes et des drachotes pour expliquer que le fait qu'ils soient arrivés à ce moment-là, eh bien, ils ont fait la gematria que ça a mené les initiales de Rabbi Khalfon Bah. C'est-à-dire, tu peux faire un drash le jour de l'enterrement d'une personne que tu respectes et que tu honores et que tu mets en avant, et pourtant, eh bien, tu rejettes tout ce qu'il t'a demandé de faire pendant sa vie. Donc ça, c'est un des deux points contre lesquels il n'a pas réussi à se battre. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal qu'on parle de cela, parce que l'autre personnage, qui lui aussi s'est battu contre ça et contre le deuxième point, lui non plus, il n'a pas réussi, c'est bien qu'ils soient enterrés pas loin l'un de l'autre. À savoir Rabbi Shalom, dont on a parlé dans un cours il y a quelques semaines. L'autre sujet sur lequel Rabbi Shalom et lui, Rabbi Moshe HaKohen, se sont battus toute leur vie, et ça n'a pas marché, c'est sur l'annulation de la croyance dans le Ayin Hara. C'est-à-dire, et Rabbi Shalom, et Rabbi Moshe HaKohen, eh bien, étaient complètement contre cette émouna absurde et qui est Gvoula Avodazara, qui était la Emouna dans le Aïnara, l'Aïnara. Tant Rabbi Shalom Messas que Rabbi Moshe HaKohen vont dire à propos de la Gemara dans le Baba Metzia, si je ne me trompe pas, qui nous dit que Echad, Tishim ve Teisha, Metim be Aïnara, ve Echad, Met be Dvarim Acherim. Et Rabbi Shalom et Rabbi Moshe, ils disaient, Tishim ve Teisha, 99% des gens meurent. Ben, Aïnara, valent pas du Aïnara que les autres, ils ont mis sur lui. Parce que là encore, c'est de la Avodazara. Tu crois quoi? Que les autres, ils ont une emprise sur ta mort ou ta vie? C'est un Kadosh Baruch Hu qui décide. Et donc, ils disaient, non, c'est de la Aïnara que toi, tu t'es mis. Mais pas en mode, mystique. Toi, tu regardes les choses avec un Aïnara. Eh ben, Dieu, il va te regarder comme ça. Malahasot. Et donc, ça veut dire, que Malahasot, connaissant un tout petit peu la communauté juive marocaine et tunisienne, on peut dire que ce sont des points qui leur tenaient énormément à cœur. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais qui sait? Peut-être que ça va marcher. Bezrat Hashem. Donc,
alors, oui. Mon copain qui édite qui est en train d'éditer les livres de Rabbi Khalfon, il est.
Tu vois, tu continues à l'appeler Rabbi Khalfon.
De Rabbi Moshe, pardon, quand même. C'est un fan de Rabbi Moshe et de Rabbi Shalom.
Ah ben, hey. D'abord, faut savoir que les deux étaient fans l'un de l'autre.
Voilà.
Donc déjà.
Donc déjà.
Nahon. Alors, les amis, de qui on est en train de parler? On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Qui c'est Rabbi Moshe HaKohen? Quel a été le chidouche énorme qu'il a amené au peuple juif? Et quand je dis chidouche énorme, vous allez voir de quoi on parle. Donc, il va naître en 1874, de Seider, il mourra en 1950, mais ce qui est intéressant, c'est que la Massoret chez les Yehoudé et Djerba, c'est que Rabbi Moshe HaKohen, il vient donc d'une famille de Kohanim, mais en même temps de dire des Kohanim à Djerba, c'est presque un pléonasme. Je crois que toute la communauté juive de Djerba, c'est plus ou moins des Kohanim. Mais la famille de Rabbi Moshe sont des Kohanim Meyuchassim jusqu'à Ezra HaSofer. C'est-à-dire que c'est déjà quelqu'un qui a un Yichus énorme et qui va justement réussir là où son ancêtre avait échoué. Mais ça, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Très souvent, vous savez, on parle des grands sages qui nous inspirent, mais est-ce qu'on parle de l'histoire de leur naissance? Parce que ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Rabbi Moshe naît dans une famille très aisée, mais il grandit dans une famille pauvre. La maman Kara. Alors, il y a des légendes qui entourent la naissance de Rabbi Moshe HaKohen, et certaines ont été racontées par, en l'occurrence, l'un de ses enfants. Rabbi Moshe, Baruch HaShem, a laissé derrière lui, eh bien, une dynastie, si vous voulez, de Talmidei Chachamim, de Tzadikim énorme, et parmi ses descendants, vous avez Rav Aharon HaKohen, et le Rav Aharon HaKohen, non, attends, Rav Aharon HaKohen, c'était le père de sa femme, c'était le père de sa femme, et c'est justement lui qui raconte l'histoire, c'est pas son fils, c'est son beau-père qui raconte l'histoire, et qui est repris après par ses enfants, qu'en fait, il était marié donc avec sa femme, et pendant des années, ils ont eu des enfants, mais ils n'ont eu que des filles. Et à ce moment-là, à un moment donné, le père donc de Rabbi Moshe, qui s'appelle Rabbi Shalom HaKohen, eh bien, il dit à sa femme, « Edma la Hassot, va falloir que je prenne une autre femme. C'est pas possible. Tu me donnes pas de fils. Edma la Hassot, il me faut un fils. » Bon, je ne sais pas si à l'époque, ils étaient tellement à l'intérieur de la technologie chromosomique, pour savoir qu'en fait, celui qui permet d'avoir un bébé garçon, c'est le garçon. Et c'est pas la femme. Mais enfin bon, elle dit non, mais écoute, ne prends pas une autre femme pour l'instant. Un peu de Emouna, ça peut pas faire de mal. T'inquiète pas, ça viendra. Et la légende raconte qu'un jour, il a dit à sa femme qu'il partait à l'extérieur de Djerba pour la nuit et qu'il revenait le lendemain seulement, il avait une affaire à régler. Et quand sa femme l'attendait tranquillement, le lendemain, il est revenu et il avait pris une nouvelle femme. Il avait pris une nouvelle femme dans la nuit. C'est ballot parce que c'était justement le lendemain matin qu'elle voulait lui annoncer qu'elle était enceinte de lui et elle était enceinte de Rabbi Moshe. Et à ce moment-là, sa femme, qui était extrêmement énervée, eh bien, elle a dit « Je ne vais pas maudire mon mari qu'il meure, mais je vais maudire mon mari qu'il perde tous ses biens. » Et c'est la raison pour laquelle, d'après la légende, il naît dans une famille, Rabbi Moshe HaKohen, une famille aisée, mais il grandit dans une famille très pauvre. Et d'ailleurs, eh bien, comme il grandit dans une famille pauvre, il va très rapidement devoir participer à la parnassa de la famille. Maintenant, évidemment qu'il est tout de suite mis dans l'ambiance de l'étude de la Torah, il faut savoir que à Djerba, on n'étudiait pas en fonction de l'âge. On étudiait en fonction du niveau. Et c'était un grand problème parce que tout jeune, Rabbi Moshe n'avait plus la possibilité d'avoir de partenaires d'études parce qu'il les avait tous dépassés. Et donc, il était obligé d'étudier dès son plus jeune âge avec les plus grands Talmidei Chachamim de la région. Ça montre déjà, évidemment, la capacité du personnage. Comme j'ai dit, il doit très rapidement aider à la parnassa de la famille. Et donc, il va devenir, dans un premier temps, il aide à recopier des livres d'autres personnes qui ont écrit, il aide à les recopier. Mais à 17 ans, la famille va partir. Elle part de Djerba, elle va devoir rester un temps dans la ville de Zarziz parce que son père prend la responsabilité de la communauté là-bas. Il a 17 ans et il en devient le Shochet et il commence son épopée dans la Hanaga du peuple juif en tant que Shochet à Keïla. À 20 ans, il revient à Djerba. Et à ce moment-là, on est en 1894, la France est secouée par l'affaire Dreyfus. Ben, ça n'a rien à voir avec notre histoire, quoique on verra que ça a beaucoup à voir. On lui demande à 20 ans de devenir Dayan du Beit Hadin à Djerba. Il refuse. Il refuse, ne se voyant pas légitime pour être le Dayan. Il refusera pratiquement tous les ans alors qu'on réitérera la demande. Et ce n'est qu'en 1917, lorsqu'il aura 43 ans, qu'il acceptera de siéger au Beit Hadin à la condition que ce n'est pas lui le nasi du Beit Hadin de l'endroit. Quoique, même s'il a reçu la confirmation que ce ne serait pas lui le nasi, mais que lui serait le troisième seulement chauffette du Beit Hadin, c'est quand même lui qui règle tous les litiges, c'est lui qui rend tous les poskim, tous les psakim, et tout le monde se fie à ce qu'il va dire. Comme on l'a dit, en 1950, il part et il sera ramené en Eretz Israël en 2005. Il est enterré à côté du Rida, à côté de Rabbi Shalom, en très très bonne compagnie. Mais bon, vous avez bien compris que notre intérêt n'est pas seulement de faire un espèce de CV du personnage. Nous voulons essayer de comprendre en quoi il a été, et je le redis, une révolution, mamash, et qui était Rabbi Moshe HaKohen. Tout d'abord, eh bien, il était connu, que ce soit en Tunisie, mais ailleurs également, d'abord pour Yosher Amidot. C'était quelqu'un de droit, mais tellement droit que même quand il n'y a pas besoin d'être droit, il était droit quand même. Lorsque les nazis arrivent en Tunisie, à Djerba, au début, ils veulent massacrer toute la communauté. Finalement, ils vont, parce qu'il y a la pression des alliés qui arrivent et donc ils ont besoin de beaucoup d'argent. Et donc, ils vont dire à Rabbi Moshe, on est prêt à épargner la communauté à une condition, que vous nous fournissiez 50 kilos d'or. C'est énorme. Et bien, qu'à cela tienne, Rabbi Moshe, il va lever les fonds et il va amener 50 kilos d'or aux nazis. Par contre, lorsqu'il va d'endroit en endroit, il dit aux gens, mais attention, il faut être yachar. Ils ont dit 50 kilos d'or. Donc, si toi, tu as une montre en or, il faut que tu enlèves de ta montre le système de la montre pour ne laisser que l'or. Parce qu'il ne faudrait pas leur mentir et leur amener des choses qui rentreraient dans la balance et qui pèseraient, et ce n'est pas de l'or. Par exemple, si tu as une bague en or avec un diamant, tu enlèves le diamant. Parce qu'ils ont demandé 50 kilos d'or, il faut que ce soit 50 kilos d'or. Baruch, qu'en vrai, Alpi Alakha, il n'avait rien besoin, il n'avait pas besoin de devoir quoi que ce soit en Asie. Mais, Yachar. Yachar, Yachar, Yachar. Pour lui, Derech Eretz Kadma la Torah. Et ce n'est pas seulement un enseignement de la Mishnah, ce n'est pas seulement un slogan, c'est une réalité. Il y a eu une époque où la ville de Djerba était dirigée par les Gabaïm. Il y avait les Rabounim et il y avait les Gabaïm de la communauté. Et les Gabaïm de la communauté de Djerba, ce n'étaient pas vraiment les Gabaïm de Givat Shmuel, dans le sens où ils étaient extrêmement près de leurs finances. Et donc, à un moment donné, alors que les tapis sur lesquels les Bachourim s'asseyaient pour étudier la Torah étaient complètement défoncés avec le temps, Rabbi Moshe HaKohen vient et leur dit « Il faut en racheter des autres !» Que vont répondre les Gabaïm de la communauté ? Ils vont dire « Ah, on n'a pas d'argent, ils peuvent s'asseoir par terre. Ça va ? Ah, Makara, ils ne peuvent pas s'asseoir par terre, les gens !» Rabbi Moshe HaKohen, il a dit « Il n'y a aucun problème. Vous ne voulez pas payer ? Vous ne voulez pas nous donner des nouveaux tapis ? Ça vous fait trop mal ? Pas de problème. Mais sachez que moi, demain matin, quand les Bachourim arrivent, j'ouvre le Aron HaKodesh, je prends un Sefer Torah et je le déroule par terre et les élèves, ils s'assieront dessus. Mazek Hashouf Sefer Torah, si vous empêchez la Torah vivante d'être étudiée. Ça a fait un tollé général dans toute la péninsule, dans toute la ville, dans tout le pays. Et évidemment, les Gabaïm, finalement, ils ont craqué et on a acheté des nouvelles marsalotes, des nouveaux tapis. Tov, tout ça, ce sont des histoires sympathiques. D'ailleurs, quand on parle de yosher, de droiture, de derret, on doit aussi absolument mettre en avant, eh bien pour lui, le émet qu'il y avait dans la Torah. Lorsqu'il était le rav là-bas de la ville, eh bien, il y a un cas qui s'est présenté devant lui. Il y a une jeune femme qui est venue et qui a dit, elle voulait être memaenet de celui qui était son prétendant. Alors, c'est quoi la notion de lemaen? Dans la halakha, une jeune fille, elle est sous la propriété de son papa. Et son papa a le droit de la marier. Si le père a marié la jeune fille avant ses 12 ans, eh bien, elle est tenue de se marier avec son prétendant une fois qu'elle a 12 ans. Et si elle refuse, ça rire guette. OK? Mais, ça, c'est si son père la marie. Mais si c'est son frère ou sa mère qui la marie parce que le père est déjà mort, à ce moment-là, elle aura la possibilité à 12 ans de dire « Je ne suis pas d'accord de me marier avec un tel. » C'est ce qu'on appelle l'émaen. Donc, c'est présenté devant Rabbi Moshe un cas où il y avait une jeune femme qui voulait être mémaénette. À cette époque-là, Rabbi Moshe travaillait parce qu'il n'était pas payé en tant que Dayan. Il refusait évidemment tout argent qui pouvait venir de sa condition de rabbin. Il travaillait, comme j'ai dit, pour le coup, il travaillait en tant que Menahel Cheshbonot, en tant que expert comptable d'un riche homme de Djerba. Mais en l'occurrence, le riche de Djerba était très proche du prétendant qui devait se marier avec la jeune fille. Et donc, il est venu voir Rabbi Moshe, il a dit, si tu acceptes qu'elle soit Memaenet, donc qu'elle ne veuille pas se marier avec lui, je te vire. Rabbi Moshe à Cohen, il a dit, Mach Patli, tu me vires. C'est Torah. Efchar les sachek ima Torah. On peut jouer avec la Torah. Donc il a été possek qu'elle pouvait être Memaenet. Il avait rassemblé pas deux témoignages, mais 20 témoignages pour aller dans son sens à la dame. Elle a été Memaenet. Elle a refusé de se marier. Et le riche, il a viré Rabbi Moshe. Tu vois pas que un mois plus tard, il a fait faillite. Et il est devenu l'un des plus grands pauvres de la ville. Faut pas le chercher, Rabbi Moshe à Cohen. Yosher, la droiture, Deres Kadma la Torah, ve Emet à Torah. Mais ça, ce sont des points très importants de, on va dire, la personnalité de Rabbi Moshe à Cohen. Mais ce n'est absolument pas le point central de son étude, de sa Mishnah, de son identité, de qui était Rabbi Moshe à Cohen. Donc là maintenant, permettez-moi de rentrer dans le Icar du Icar. J'ai dit, c'est une révolution, Rabbi Moshe à Cohen. Mais mamache une révolution dans deux domaines principaux. Alors, les Tunisiens qui nous entendent pourront contredire si jamais il pense que c'est pas vrai ce que je dis, mais d'après ce que j'en sais, il y avait en Tunisie une tradition très ancienne, et c'est comme ça qu'on faisait depuis près de 1000 ans, on n'étudiait pas du tout la halakha en Tunisie. C'était des pros de l'étude, mais ils étaient des palpélanimes. On étudiait le pilpoul, la Gemara en mode pilpoul, pas pour savoir la halakha. C'est pas du tout le rif. Et je ne suis pas en train de mettre en place une guerre entre la synagogue des Tunisiens et la synagogue du rif. Chas v'shalom. Je dis que le rif avait une shita qui était d'amener directement à la halakha. En Tunisie, il y avait une shita qu'on étudie pour le fun d'étudier, j'ai envie de te dire. On étudiait.
Il y a le fondateur de la synagogue des Tunisiens qui s'est joint à nous, Emmanuel Psid.
Shalom, shalom.
Il va être en 2015, qui est un vrai Djerbien dont le père a monté une école tunisienne à Paris. et qui est reparti de Givatchouen il y a 2 ans en France, mais qui va très vite revenir chez nous.
Amen. Amen.
Chez lui.
Donc je parle. Je, pardon ?
Ça fait allusion à ce qu'on appelle le Ioun Tunis.
Ça s'appelle Ioun Tunis.
Oui, c'est ça. On va entrer en profondeur sur le sujet. D'accord. On pourrait rester des heures sur.
Exactement. Comme ce qu'on retrouve plus ou moins dans les Ishivot, Charediot, Ashkenaz aujourd'hui. Qu'on étudie la Gemara du matin au soir, et s'il y a un élève qui a le malheur de poser la question « Umay nafkamina la halakha ?» et c'est quoi la conclusion halakhique, on lui tombe dessus en disant « Mais on s'en fiche, c'est pas ça qui est important, ce qui est important c'est le maharsha !» Mais qui sauf, c'était la shita. C'est une shita qui n'est pas née d'hier, c'est une shita qui avait plus de 1000 ans, depuis la fin du Talmud en fait. Rabbi Moshe Chalfon, Rabbi Chalfon Moshe, Rabbi Moshe HaKohen, il s'est battu contre cela et il a ramené une étude qui amène aussi à la halakha, non seulement à Djerba, mais en Tunisie Bichlal, pour comprendre que ça ne suffit pas d'être un pro dans le Iyun de la Gemara, mais il faut savoir aussi comment être posek halakha. Et ça, ça a été une révolution qu'il a réussi à 100%. Car aujourd'hui, Chachmé Tunis et les gens qui viennent de là-bas sont des très très grands, pas seulement dans leur capacité à étudier la Torah et la Gemara, mais à l'Ifsok Halakha. Et ça, ça a été une révolution qui a été mise en place par Rabbi Moshe HaKohen. Ça, c'est une première révolution. Mais quelle est la deuxième révolution? Et elle est la plus importante. C'est l'œuvre de sa vie. Et c'est ce qui va non seulement le faire rester dans la postérité, bien sûr, mais qui va surtout faire en sorte que dans tout le monde de la Torah de son époque, tout le monde le considérait là-haut. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. C'est-à-dire, et c'est très très rare pour cette époque-là, même les rabbins ashkénazes. Il faut bien se rendre compte que c'est rare à cette époque-là. Que même les rabbanim ashkenazim au début du XXe siècle se réfèrent à Rabbi Moshe HaKohen comme étant un patron. Alors, quelle est cette révolution? Quelle est cette deuxième révolution extraordinaire? Eh bien, je vais vous le dire, ça s'appelle Eretz Israël. Point, on peut s'arrêter là, c'est bon, on a tout dit. Mais viens, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. C'est même pas une légende. L'histoire raconte que Ezra Sofer, lorsqu'il est lancé pour ramener les Juifs en Eretz Israël, reconstruire le deuxième Beth Amikdash, il va se balader dans toutes les communautés. Il arrive de Perse et Ezra, il va se balader dans toutes les communautés pour ramener les Juifs en Israël. Lorsqu'il arrive en Tunisie, et particulièrement lorsqu'il arrive à Djerba, il y a des Juifs. Il vient dire aux Juifs de Djerba qu'il a besoin de Lévi'im. Il n'a pas de Lévi'im pour chanter au Beth Amikdash. Il a besoin de Meshoverim. Où sont les Lévi'im? Personne dans la communauté n'a accepté de le suivre. Oh, t'inquiète pas, hein, c'est pas que à Djerba. Au Yémen, ils n'ont pas accepté de le suivre non plus. En Irak, ils n'ont pas accepté de le suivre non plus. Pratiquement personne n'a accepté de le suivre. Hein. Quand on lit le Sefer Ezra, on se rend compte de qui est monté en Israël finalement à l'époque de Ezra. Mais pour ce qui est de Yehudé Djerba, il a demandé des Lévi'im. Maintenant, je parle sous ton couvert. Donc, tu m'as dit c'est Ethan ?
Emmanuel.
Ah, pourquoi il y a marqué Ethan ?
Mon fils, Ethan.
Ah, Emmanuel. Alors, Emmanuel, je parle sous ton contrôle. Si on a dit que 90% de la communauté de Djerba, c'est des Kohanim, il n'y a pas de Lévi'im.
C'est ça.
Il n'y a pas de Lévi'im. Pourquoi il n'y a pas de Lévi'im? Parce que Ezra les a maudits. Que comme ils ne voulaient pas venir, il n'y en a pas un qui allait terminer l'année. Résultat des courses, il n'y a plus de Lévi'im à Djerba. Maintenant, bon, ça c'est pour les Lévi'im, mais il n'empêche que cette idée qu'on ne veut pas venir en Eretz Israël, eh bien c'est quelque chose qui a énormément continué en Tunisie et à Djerba en particulier. Il y avait un détachement d'Eretz Israël qui était extrêmement... on pouvait le sentir, c'était palpable, c'était visible de tous. Et le grand, grand, grand combat, la révolution atomique de Rabbi Moshe HaKohen, c'était Eretz Israël. Toute sa vie, ça a été Eretz Israël, Eretz Israël, Eretz Israël. Il expliquera dans la paracha où Yaakov va bénir son fils Yosef et qui lui dit « Venatati lecha shrem echad alachecha » Mazé venatati lecha shrem echad alachecha, nous dit Rabbi Avraham Ibn Ezra que Yaakov a acheté Shrem pour le donner à Yosef. Nous dit Rabbi Avraham Ben Ezra, de là, que qu'est-ce que ça veut dire qu'il a acheté? Nous dit la Torah qu'il a acheté Chelkat Asadé. Pose la question Ibn Ezra, mais c'est Chelkat Asadé. Est-ce que ça n'aurait pas suffi qu'on nous dise qu'il a acheté Asadé, qu'il a acheté le champ? Pourquoi est-ce qu'on me dit qu'il a acheté la part du champ? Dit Ibn Ezra, de là, tu apprends que Miché connaît Sadé, Miché connaît Arba Amot Beret Israël, Yesh lo Chelka, Yesh lo Chelek le Olam Abba. Mais Miché lo connaît Chelek Beret Israël, En lo Chelek le Olam Abba. Sheneemar, Kol Israël, Yesh lehem Chelek le Olam Abba. Il est marqué dans la Mishnah. La Mishnah dans Sanhedrin, Perek Chelek, nous dit Kol Israël, Yesh lehem Chelek le Olam Abba. Sheneemar, והאמר כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. דולה רבי משה הכהן היא לפוסק להלכה לכל יהודי ג'רבה כלפו אשתה אנטחוי כאן ארץ ישראל. לוימם ואשתה דייר חלקת אדמה דולה לקרתי אוג'ורדוי דו אין קרם. סייר כפור לוי סנפה סלמון אין בל דרשה. C'est une réalité qu'il faut mettre en pratique. Le rapport avec Eretz Israël, se rattacher à Israël. Pour lui, c'était évident. Et il va imposer à tout le monde d'acheter. Ah, on est dans les années 20. À peine, peut-être même pas, peut-être un peu avant même. Alors, Rabotai, dans les années 20, il y a quoi en Israël? Il y a Shum Dabar. On est complètement sous domination de l'Empire Ottoman. Et les Arabes qui ont commencé à nous attaquer. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est ce que lui répondent les Juifs. Attends, mais ça va pas. On n'y arrivera jamais. Et il répond, qu'est-ce que vous rentrez dans les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que vous rentrez dans les décomptes de Dieu? Il faut acheter. Si tu peux pas, parce que financièrement tu peux pas, bah tu peux pas. Mais